Alternative FM vous présente au cœur de la ville Persan avec Mission 18. Bonjour à tous, aujourd'hui les pompiers de Persan nous parlent du plan individuel de mise en sûreté. C'est un sujet qui nous concerne tous au quotidien. Quand faut-il appeler les numéros d'urgence? Comment bien réagir face à une situation dangereuse? Et comment se préparer chez soi ou dans un établissement pour protéger les personnes les plus vulnérables? Dans ce nouveau numéro, les pompiers vont nous aider à mieux comprendre les bons réflexes à adopter et à nous présenter un outil essentiel. Le plan individuel de mise en sûreté.
Bonjour, je m'appelle Timaël, j'ai 9 ans et aujourd'hui je vais vous parler des numéros d'urgence en France. Ils servent à appeler à l'aide quand il y a un danger ou un accident grave. Le 15 SAMU, le 17 la police, gendarmerie et le 18 les pompiers. Le 17 c'est la police par exemple en cas de vol ou de danger. Le 112 il fonctionne dans toute l'Europe. Le 114, numéro de secours pour les sourds et les malentendants, unique et gratuit. Ne pas banaliser l'appel aux urgences. Insister sur le calme. Dire son nom, où se trouve, ce qui se passe. Ne jamais raccrocher sans autorisation.
Tu aimerais devenir pompier quand tu seras grand?
Ah ça, j'en ai aucune idée.
Les sapeurs-pompiers, dans un premier temps, ils sont plus réservés à la partie accident de la route et incendie. C'est notre cœur de métier. Néanmoins, on fait 80% de secours à victime, de secours à la personne, donc sur du domicile ou sur de la voie publique. Lorsqu'on fait du secours à victime, on est engagé et sous couvert, on va dire, du SAMU qui prend en charge le devenir médical de la personne et finalement suit aussi notre intervention au travers d'un bilan qu'on va leur donner, qui est numérique finalement. Et ensuite, après on les appelle, et c'est eux qui nous indiquent la destination de la victime. Donc les sapeurs-pompiers, je le répète, font accident, incendie, aussi secours à victime. Mais pour une intervention plutôt médicale, on s'orientera sur le 15, le SAMU, ou notamment lorsqu'on a un doute. Ça peut être à 3h du matin, un enfant qui a de la fièvre. Il n'y a pas de médecin évidemment à cette heure-là, on ne sait pas trop quoi faire, comment agir. On peut appeler le 15 aussi pour des questions médicales, c'est pas forcément un engagement systématique derrière. Voilà, faut pas que les gens aient cette crainte d'appeler pour un conseil et de se retrouver avec une ambulance à leur domicile, parce que ça n'arrive pas dans tous les cas. Au niveau des numéros, les gens connaissent pas tous bien les numéros d'urgence. Ils pensent parfois appeler la police alors que c'est nous et vice versa, ou parfois ils veulent des renseignements qui n'ont rien à voir finalement avec du secours, et ça impacte évidemment nos lignes et nos réponses. Donc voilà, on essaie de les orienter plus sur des services de renseignement qui sont consultables sur Internet. Même si ça paraît pas forcément évident, il faut bien donner son numéro de téléphone, ça va nous permettre de vous rappeler si jamais la communication se coupe. Ça permet aussi d'identifier l'appelant, en tout cas le nom qu'il y a sur la ligne. Ça peut parfois permettre, mais c'est loin d'être systématique, ça peut permettre d'identifier un domicile. Donc le premier élément à donner, c'est son numéro de téléphone, son nom, son adresse et évidemment ensuite la nature de l'intervention.
Au cours des appels de secours, hein, vous avez en ligne un opérateur qui va calmer la personne qui appelle, hein, parce qu'on s'aperçoit que dans les situations d'urgence on peut perdre notre sang-froid. Donc vous allez être conseillé et guidé par un opérateur. Il faut suivre les conseils et bien répondre à ces questions, hein, notamment les numéros et les différents renseignements qui sont utiles, hein, pour faire déplacer les camions, les engins sur les interventions.
Dans le Val-d'Oise, on fait environ 100 000 interventions à l'année et qu'on reçoit entre 3 et 350 000 appels, ce qui signifie finalement que 2/3 des appels ne correspondent pas forcément à une intervention. Ou parfois, c'est des doublons. Sur les incendies, on peut avoir 5, peut-être même 10 appels parfois sur certains incendies, on va dire, assez conséquents. Donc voilà, tous les appels ne concourent pas à une intervention, en tout cas de nos services. Pour s'assurer que l'opérateur qui soit au bout de la ligne vous ait engagé le bon moyen de secours, finalement, et ait compris l'ensemble du problème. On part souvent sur des opérations sur lesquelles on a peu de détails. Ça peut être un détail d'adresse parfois qui va nous mettre un petit peu dans l'embarras. Si on n'a pas l'étage par exemple du lieu d'habitation et que c'est plusieurs appartements, si la nature du problème n'est pas tout à fait la bonne, évidemment on arrivera sur place mais pas forcément avec le bon matériel, pas forcément avec le bon véhicule. On va trouver des solutions palliatives jusqu'à temps que le bon véhicule arrive pendant les quelques minutes qui vont se passer, puisqu'évidemment on va le demander ce qu'on appelle en renfort. Mais si vous voulez, le premier maillon de la chaîne des secours, c'est le requérant. Et il faut que celui-ci il nous donne un maximum de détails et aussi qu'il nous écoute bien malgré, évidemment, les phénomènes de panique que les gens peuvent avoir. On essaie de les rassurer pour qu'ils mettent en place des gestes ou des actions qui vont permettre de limiter le risque et le nombre de victimes. Depuis quelques années maintenant, on met le citoyen au cœur de la sécurité civile. Donc la sécurité civile, c'est la sécurité de tout le monde en France. Les pompiers sont des principaux acteurs de la sécurité civile, mais on n'est pas les seuls. On a la Croix-Rouge, les associations de protection civile. On a aussi les militaires, la sécurité civile telle qu'on l'entend, qui viennent nous aider l'été sur les feux de forêt et qui sont un petit peu répartis sur tous les territoires de la France. Et le premier acteur de tout ça, finalement, c'est le citoyen, au travers de son comportement, qui va avoir sur un sinistre, mais aussi qui va anticiper finalement et éviter de se retrouver en position de victime au travers de différents conseils. Finalement, les personnes vulnérables, on essaie de faire en sorte qu'elles soient prises en charge, et c'est un petit peu le but du plan individuel finalement de mise en sûreté, c'est de voir ça sur une sphère un petit peu familiale et d'inviter les gens à se poser la question si demain, après-demain, il y a un blackout général qui fait moins 5 degrés, si on a un blackout qui dure 3-4 jours, savoir quoi faire finalement, se poser cette question, se dire qu'est-ce qui va pallier à cette problématique. Ça peut être aussi en vacances, sur des feux de forêt, sur des séismes, tempêtes ou cyclones. Ça peut être aussi sur un autre aspect qui nous concerne un peu plus au niveau régional, un accident industriel, un accident nucléaire aussi, ou des transports de matières dangereuses. Voilà, quoi faire si on vous dit dans 40 minutes, il faut vous confiner, peut-être pour une durée de 24-48 heures, parce qu'il y a un nuage toxique qui peut traverser, il peut y avoir un événement particulier. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'ai déjà en place à mon domicile pour passer ce temps-là? Eh bien, on peut préparer un kit d'urgence, on va dire, qui nous fait tenir 48-72 heures en autonomie, avec plusieurs éléments. On a entendu au travers de l'actualité ces derniers temps que la Banque Centrale Européenne, je crois, recommandait d'avoir de l'argent liquide chez soi. Donc c'est un des éléments à avoir, effectivement. Je fais un parallèle sur le fameux blackout, voilà, qui peut arriver, ou un bug informatique. C'est une radio à pile. On a tous aujourd'hui des radios et des téléphones, mais rarement qui sont autonomes en énergie. Donc une radio à pile présente l'avantage d'avoir cette autonomie. Également solaire, je sais qu'il en existe des solaires dans les magasins. On peut avoir quelques médicaments, des antidouleurs, des choses assez basiques. Une trousse de premiers secours, de l'eau potable, ça c'est important aussi, on y pense pas systématiquement, mais avoir entre 6 et 10 litres d'eau potable chez soi, même si on boit de l'eau du robinet, ça peut nous aider si jamais il y a une pollution dans l'eau ou quoi que ce soit. C'est également avoir des chargeurs et éventuellement des vêtements chauds et pourquoi pas un système de chauffage ou un groupe électrogène. Alors je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait un groupe électrogène, mais si dans ce fameux plan de sauvegarde familiale, finalement, il y a une maison sur 4 ou sur 5 qui est équipée, ça peut peut-être aider certaines personnes en se rapprochant avoir de quoi se chauffer et se nourrir pendant un certain laps de temps.
Sur le kit d'urgence qu'on considère pour une autonomie de 72 heures, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une anticipation à un risque courant, mais aussi un risque particulier, un événement majeur, typiquement sur le territoire, on peut penser aussi aux inondations, aux crues notamment. Donc effectivement, ce kit est une anticipation en cas de catastrophe ou événement majeur, mais aussi pour les risques du quotidien. On intervient sur des feux d'appartement ou des feux d'habitation. Si on a ce kit de prêt, on a une autonomie malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et je fais une petite aparté, notamment sur les documents essentiels, papier, identité, etc. C'est aussi à mettre dans ce kit, parce que quand on est soumis à un sinistre, quand on fait face à un sinistre, idéalement, c'est de conserver le minimum de papier et notamment les papiers d'identité.
J'ai oublié presque l'essentiel aussi de la nourriture en conserve. Évidemment, si on ne peut pas cuisiner, il est bien d'avoir de la nourriture chez soi qu'on pourra manger finalement sans cuisson. C'est en parallèle du pack d'eau. De la nourriture non périssable, ça peut permettre de tenir plusieurs jours. Ce qu'on veut faire comprendre au travers de ce message, c'est que il faut parfois se préparer simplement avec des choses qu'on a tous à la maison. Il n'y a pas besoin que tout le monde aille au magasin demain pour s'acheter ce fameux kit. C'est des petites choses qu'on a à la maison pour pallier voilà, une problématique spontanée face à laquelle il va falloir réagir pour éviter justement cette fameuse crise d'angoisse que tout le monde pourrait avoir si on nous dit on se confine tous pendant 2 jours à partir de dans la demi-heure qui vient. Voilà. Si je suis préparé finalement, je vais me dire ce sera un mini Covid bis repetita et puis tout va bien se passer. C'est un petit peu le message qu'on veut faire passer pour éviter les phénomènes de panique. Alors, ça facilite grandement les secours parce que finalement on en aura beaucoup moins à faire. Sur les inondations, sur notamment les feux de forêt, finalement on consacre une immense partie de nos ressources humaines et matérielles sur ce qu'on appelle nous le T+1, le T+2, c'est-à-dire où va en être l'événement dans 2 heures et quel impact il va avoir sur la population. Et finalement, plutôt que de traiter le problème principal, on va consacrer énormément de moyens à éviter de rajouter des problèmes. Et ça pourrait grandement nous aider finalement si les gens étaient informés du comportement à avoir, on gagnerait un temps précieux. Au niveau de la population nationale, déjà, on peut s'informer sur les sites du ministère de l'Intérieur, où il y aura le kit d'urgence, où il y aura les mesures à prendre en cas d'événement particulier avec l'ensemble des événements qu'on peut vivre en métropole et en Outre-mer, en tout cas en France, avec les conduites à tenir. Et à l'échelle communale, il y a de la prévention, on va dire, un petit peu à notre niveau. Hein, c'est chaque, on va dire, caserne, chaque entité qui fait un petit peu sa propre prévention. Il y a quelque chose qui est mis en place au niveau de la commune, qui est obligatoire pour certaines communes et recommandé pour toutes les autres. C'est ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. C'est la commune, finalement, qui compile un ensemble de mesures pour mettre en sécurité la population le jour où on a un événement. Donc ça a commencé à se faire beaucoup dans le sud de la France, notamment par rapport aux feux de forêt et aux inondations. On a aussi développé ça sur l'aspect industriel, où tout est écrit, finalement. Si on a besoin demain d'évacuer 1000 personnes d'une zone urbaine, où est-ce qu'on les met si on dit dans 2 heures, il faut que 1000 personnes soient chauffées et abritées d'un événement? On met en place l'ouverture d'un gymnase, les associations de protection civile qui concourraient finalement à mettre la population en sécurité, à l'évacuer. Et comment on la nourrit? Comment on fait les choses pour que... on n'ait pas besoin de réfléchir ce jour-là.
Alors c'est une démarche de résilience, un mot qu'on entend beaucoup depuis le Covid, mais aujourd'hui le citoyen acteur de sécurité civile, c'est un citoyen informé, résilient et qui se prépare pour faire face aux différents aléas qu'il peut rencontrer. Donc ça c'est un peu la démarche qu'on veut souligner, en tout cas qui est communiquée au niveau national. Alors pas tant dans le fait d'être à la fois alarmiste ou pessimiste, mais dans le fait de dire que si on est préparé, si on a anticipé ce qui peut se passer, demain, en termes d'action, on sera plus efficace et on sera facilitateur lorsqu'il y a un événement et des engagements de secours. À chaque niveau, finalement, l'information, l'anticipation va permettre des meilleures actions de secours.
À une échelle plus locale, ça peut être une fuite de gaz demain en bas de chez soi. Pendant peut-être 2, 3, 4 heures, il va falloir rester chez soi. Et du coup, il faut prévoir finalement. Il faut des fois se poser des petites questions. J'arrive en vacances, je suis dans une zone très boisée, dans le sud de la France l'été. Si jamais il y a un événement, un feu de forêt, est-ce qu'en 1 heure, finalement, je peux quitter le camping sans difficulté? Oui, si je me suis posé la question au préalable de qu'est-ce que je mets finalement dans mon sac à dos pour pouvoir partir un jour ou deux sans avoir d'ennui. C'est l'essentiel de notre temps en tant que pompiers. Nous, il y a beaucoup de préparation finalement dans nos gardes. Et en fait, on passe notre temps à faire ça finalement. Et c'est pour ça qu'on informe le public. On passe notre temps à se former pour être prêt à l'opération. On passe notre temps à anticiper. On prépare le matériel, on le répare pour l'opération. Et en fait, finalement, c'est un petit peu un prolongement de ce que peut faire le citoyen à son échelle.
La population personnelle peut s'impliquer davantage en accédant à des formations... à la fois simple mais efficace dans les gestes de premier secours. On sait que les premières minutes en cas d'événement majeur et en termes de secours à victimes, les premières minutes sont cruciales. Donc ce qu'on peut proposer aux personnels, c'est de s'inscrire sur des formations de premier secours, mais également aussi de souscrire, en tout cas de s'engager à nos côtés en tant que pompiers volontaires pour renforcer nos effectifs et pouvoir demain répondre au mieux et davantage aux différentes sollicitations qu'on pourra être amené à secourir. Alors on a beaucoup de personnel, beaucoup de partenariats qui sont engagés, hein, notamment avec les jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi avec les cadets de la sécurité civile. On poursuit toute l'année, hein, le recrutement de pompiers volontaires. La démarche est assez simple, hein, vous avez le site internet du SDIS95, hein, SDIS95.fr, qui vous permet d'accéder à un formulaire d'inscription pour solliciter le service et déposer votre candidature. Les centres de secours reçoivent les candidats pour entamer des démarches de recrutement et d'explication pour devenir pompier volontaire.
Connaître les bons numéros d'urgence, savoir expliquer clairement la situation et rester en ligne peut faire gagner de précieuses minutes. Anticiper, c'est aussi se protéger. Le plan individuel de mise en sûreté permet de mieux réagir et d'aider les secours à intervenir plus efficacement, notamment pour les personnes les plus vulnérables. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Composer le bon numéro, donner les bonnes informations, garder son calme. Ces gestes simples peuvent tout changer. Les sapeurs-pompiers sont là pour intervenir, mais la première chaîne de secours commence souvent par nous. Informer aujourd'hui, c'est protéger demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez le prochain numéro de Mission 18 l'année prochaine, le jeudi 29 janvier à 19h et rediffusé le dimanche 1er février à 14h.